Parmi les innovations qui facilitent la communication entre patients et soignants, il y a bien sûr la téléconsultation. C'est sans doute l'exemple qui revient le plus souvent. Mais tous les publics ne peuvent pas l'utiliser tel quel. Pour les personnes malentendantes et malvoyantes notamment, il faut évidemment l'adapter. Cette adaptation, qui fait partie des efforts d'accessibilité nécessaires de la e-santé, c'était l'un des sujets de l'Université de la e-santé l'année dernière. On en a parlé au cours d'un atelier organisé par l'association Coactis, auquel participait Annelise Granier. Annelise est anthropologue, et ça mérite d'être souligné, on en voit peu à l'Université de la e-santé. Alors quel lien entre e-santé, accessibilité et anthropologie ? Eh bien, avec d'autres chercheurs, Annelise participe à la mise en place du service d'appel d'urgence dédié aux personnes aphasiques, AFA 114. Former les agents, trouver les outils de communication adaptés aux personnes aphasiques, ça s'invente pas et ça demande même beaucoup d'études préalables. La mise en place du dispositif AFA 114 a donc demandé des tests, et c'est précisément de ces tests dont nous parle Annelise dans cet épisode du podcast. Bonjour Annelise.
Bonjour Nicolas.
Annelise, merci d'être là. C'est la première fois qu'on reçoit une anthropologue dans le podcast de l'Université de la e-santé.
Ah.
Ce matin, tu es intervenue dans l'atelier proposé par Coactis au sujet de la e-santé pour les personnes sourdes ou aphasiques. Tu es intervenue notamment sur le sujet du projet AFA 114.
Absolument.
Tu peux nous dire en deux mots ce que c'est et à qui ça s'adresse ?
Alors oui, le projet AFA 114, en fait, c'est un projet qui a été initié à l'initiative de Jean-Dominique Journet, qui est le président de la Fédération nationale des aphasiques de France, qui est lui-même en fait une personne aphasique, qui s'est dit que vraiment c'était nécessaire de permettre l'accessibilité des appels d'urgence aux personnes aphasiques. Voilà.
Quand on parle d'aphasique, alors oui. Tout le monde ne connaît pas nécessairement ce que ça recouvre.
Oui, alors effectivement, oui, l'aphasie, c'est 300 000 personnes donc, en France, hein, c'est ce que je disais ce matin, avec donc des difficultés de communication qui sont généralement causées par un AVC, mais pas que, ça c'est dans la majorité des cas. Et ça va concerner l'expression et la compréhension du langage à des degrés variables, donc dans ces cas. Modalités de communication, voilà.
Et alors, si j'ai bien compris ce qu'on disait ce matin, donc le projet AFA 114, c'est le 114 pour les appels d'urgence, mais dédié initialement aux personnes signantes, donc plutôt aux personnes sourdes et malentendantes, et sur lequel vous avez rajouté une chaîne de communication dédiée aux personnes aphasiques.
Exactement. Donc, ça a été créé en 2011 pour les personnes sourdes et malentendantes. À l'époque, il n'y avait que la possibilité de communiquer par fax et par SMS.
Mmh.
La toute première étape, ça a été de créer une banque d'images avec les images de Santé BD.
Projet de Coactis Santé.
Absolument. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça a été de former des agents à la problématique de l'aphasie. Donc ça a été un deuxième point. Et à partir de 2019, au 114, la visio apparaît. La visio apparaît, mais pour les sourds et les malentendants,
ouais,
au départ.
Uniquement, ouais, ouais.
Ah oui, c'est un peu révolutionnaire parce que ça va permettre de proposer une conversation totale. Une conversation totale, c'est-à-dire qui associe simultanément voix, texte, langue des signes, en fait. Après, progressivement, il y a eu des tests qui ont été faits avec des personnes aphasiques,
ouais.
En passant par le relais 114, en faisant des appels tests d'urgence.
D'accord.
Le principe, c'est de faire jouer, en fait, simuler une situation d'urgence à une personne aphasique qui va devoir, une fois qu'on lui a expliqué comment fonctionne en fait le bouton AFA 114, qui va appeler les urgences. Et là, l'agent du 114 qui a été formé à l'aphasie va tout faire pour lui faire comprendre et essayer de comprendre le problème. Il va lui présenter à l'écran des images papier et il va progressivement essayer de comprendre l'information et quel est le problème. Une fois qu'il a compris le problème, qu'il a identifié le problème, il va appeler les urgences et servir de relais entre la personne aphasique et les pompiers, le SAMU.
Oui, voilà. D'accord.
Donc en fait, ça c'est une très grosse organisation en fait. Hein. À ce jour, il y a 64 appels d'urgence qui ont été simulés, passés par 55 personnes aphasiques. Des personnes âgées de 40, entre 40 et 80 ans à peu près. Et ça mobilise donc les personnes aphasiques, ça mobilise leurs proches et aidants qui des fois jouent les victimes. Ça mobilise les agents en fait, du 114 qui vont traiter leur appel vidéo au niveau national. Ça va mobiliser également tous les professionnels des urgences
oui.
Quand on fait ça. Donc pompiers, SAMU, gendarmerie, police en fonction des scénarios. L'équipe de chercheurs également qui va se déplacer pour aider à la mise en place, donc faire jouer ces scénarios auprès des personnes.
Parce que vous y assistez ?
On y assiste.
Vous les mettez en scène vous-même ?
On les met. Alors, on propose le scénario.
Ouais.
On explique à la personne aphasique. C'est aussi le moyen de faire connaître le 114. C'est parfois le moment où on va installer, montrer comment on s'en sert, dans quel sens il faut utiliser le bouton, etc. On est là et on va filmer en fait ce qui se passe des deux côtés. À la fois du côté appelant aphasique, et sur la plateforme donc, du relais du 114 à Grenoble, installé à Grenoble, il y a aussi une autre personne qui filme. En fait, ça, c'est important pour le travail, justement. Donc, tous ces appels sont filmés, puis analysés. Et c'est là où, en fait, il y a un gros intérêt à une équipe interdisciplinaire, en fait, avec donc des sociologues, avec Isabelle qui est orthophoniste, avec Jean-Dominique Journet qui est là, avec les agents du 114. Et en fait, ces appels tests sont extrêmement importants, non seulement pour faire découvrir ce qu'est le 114 aux personnes aphasiques, ouais, mais aussi pour permettre aux agents de progresser. Donc, suite à l'analyse en fait de ces tests, il va y avoir une réévaluation constante, voir là où ça a fonctionné, là où ça a dysfonctionné, et amener des progrès constants sur
la mise en place de
ces tests, d'un point de vue notamment aussi ergonomique, hein, parce que on s'est aperçu quand on va auprès des gens qu'on fait ces appels tests, on leur a proposé à un moment donné des images, ouais, telles que les agents les ont en version papier, ils s'en servent pas. En revanche...
Donc eux, ils se servent de la caméra pour montrer la situation qui pose problème.
Voilà, ils se servent de la caméra pour montrer la situation. Certains vont aller chercher un papier d'identité, vont mimer. Ils vont faire des choses comme ça, où ils vont essayer de parler. Bon, il y en a qui parlent très bien, il y en a qui parlent moins bien. En tout cas, ils vont essayer de se faire comprendre. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Toute la difficulté pour l'agent, ça va être de bien comprendre ce qui est dit, de le comprendre finement et rapidement. Ouais. Parce qu'on est dans une situation d'urgence.
Ouais. Alors, on pourra parler de la formation, mais juste une chose avant. Donc, toi, tu es anthropologue.
Oui.
Tu as passé peut-être 10 ans ou plus en Afrique,
oui,
subsaharienne. Comment est-ce que ton passé d'anthropologue t'a amené à participer au projet AFA 114 et tout à l'heure, donc, tu parlais d'interdisciplinarité, de l'apport de sociologues, d'orthophonistes. Comment est-ce que toi, ce bagage d'anthropologue, en fait, qu'est-ce qu'il apporte au développement de cette solution ?
Alors, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse... Avant, j'ai fait autre chose. Mais là, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à la santé, à l'accès aux soins pour les personnes sourdes, d'abord. Puis ensuite, en France, à la question des parcours de vie et de l'accès aussi pour les personnes sourdes aveugles. Et puis après, sur la question de l'accès par rapport aux personnes sourdes addictes. Effectivement, voilà. Donc ça, c'est tout un parcours. Et puis, en fait, Sophie Dalnazebi, qui porte ce projet, qui a été à l'initiative quand même là, de la deuxième phase, quand elle a vu le grand intérêt que c'était, quand on a commencé à avancer, quand elle voyait ce que ça pouvait impacter, les modifications qui pouvaient être apportées, etc. Elle m'a proposé, on avait l'habitude de travailler ensemble sur d'autres projets, et là elle m'a proposé donc de rejoindre cette étude et donc de la rejoindre en cours de route. À ce moment-là, c'était sur les appels tests. La mise en place, c'était la fin de la mise en place des appels tests pour cette partie-là. Et puis il y avait une deuxième partie qui était de mettre en place des entretiens avec les proches, en fait, des personnes aphasiques pour arriver à comprendre le quotidien de ces personnes-là, parce que quand il y a une aphasie dans une famille, c'est un bouleversement pour toute la famille, en fait, hein, c'est un réaménagement complet pour tout le monde. Voilà. D'une part, et puis surtout d'arriver à comprendre en fait ce qu'ils ressentaient justement en lien avec la question des urgences, en fait. Comment aujourd'hui, s'il y a une situation d'urgence pour leurs proches aphasiques ou pour eux-mêmes, si eux-mêmes ont un accident, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils s'étaient posé cette question-là ? Donc ça nous intéressait pour l'étude, en fait, de prendre en compte la parole des aidants. Donc, une étude comme ça, c'est super intéressant. C'est comment, à partir du quotidien, du vécu des gens, c'est un peu de la recherche-action, en fait, hein, comment, à partir d'une situation donnée, on va pouvoir se servir de la technologie pour faire progresser les choses et pour mettre en place des choses pour un meilleur, en fait, au quotidien, tout en prenant effectivement également la parole de l'entourage.
Donc il y a un double effort en fait, qui est une double contribution de ta part, qui est d'une part d'aider à la mise en place de la solution, mais en même temps de mettre ta casquette de chercheuse en disant bon, bah, comment est-ce que ça participe de manière générale, plus large, à la vie quotidienne des personnes aphasiques et de leur famille.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, alors moi, je suis un petit maillon, hein, je veux dire, c'est là, la grande spécialiste de ça, c'est quand même Sophie. Hein, il faut, je le souligne parce que c'est quand même important. C'est elle qui a tout porté, écrit. Si tu veux, la spécificité vraiment d'AFA 114, oui, c'est la question de l'interaction et de l'adaptation presque personnelle, en fait. Avec des sourds, on est dans une langue des signes. Voilà, il y a une problématique, ok, mais on est en langue des signes, qu'on pourrait être en anglais, en chinois, ouais, etc.
Un langage qui existe
problème.
Déjà.
Voilà, c'est pas un problème. Si ce n'est qu'il y a peu d'accueil encore en langue des signes ou trop peu, ok, mais ça c'est autre chose. Alors que là, la particularité de ce projet, qui est quand même hyper innovant et qui est le seul en fait au monde, c'est justement tout l'accent sur cette formation des agents à la problématique de l'aphasie et de comment on réfléchit, comment on fait pour améliorer, qu'est-ce qu'on va trouver de façon fine pour y arriver. Alors, c'est pas toujours aussi simple. Hein. Je veux dire, tout à l'heure, je parlais des appels tests. Ils sont intéressants parce que ça permet aux personnes aphasiques de découvrir ce qu'est le 114, certes, mais ils permettent aussi aux agents de progresser. Et c'est tout l'intérêt de filmer pour justement, après, pouvoir faire des analyses de ces tests-là. Voilà.
Quand tu viens à un événement comme celui-ci, à l'Université de la e-Santé, quel est ton but et qu'est-ce que tu en as retiré ?
Un événement comme ça, c'est toujours très important parce que d'abord, ça permet de faire des rencontres, mais surtout, ça permet de faire passer des messages sur des thèmes, des thématiques qui ne sont pas forcément connues. Je ne suis pas certain que beaucoup de personnes ici connaissent d'abord ce qu'est une personne aphasique, voilà, la problématique de l'aphasie, les différentes difficultés que peuvent rencontrer une personne aphasique, connaissent ce projet AFA 114 et bien même connaissent le numéro d'appel d'urgence, le Centre National donc Relais 114, qui est pourtant là depuis et instauré depuis 2011. Donc je crois que c'est vraiment très très important sur la question de l'accès à l'information, des échanges. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, je pense, dans ce genre d'événement.
Merci Anne-Lise, merci pour d'être venue à l'Université de la e-Santé et puis merci de t'être arrêtée dans le studio du podcast.
Merci à toi, Nicolas.
À bientôt.
Au revoir.
Au moment où nous avons enregistré, 17 des 20 agents du 114 avaient été formés à la communication avec des personnes aphasiques. Si la formation vous intéresse vous-même, sachez qu'il existe un DU, un diplôme universitaire dédié à la communication et à la médiation avec les personnes aphasiques. Il est organisé par l'Université Paul Sabatier de Toulouse sous l'impulsion de Xavier de Boissezon et dispensé en e-learning sur un an. À bientôt.